Vous écoutez
RMC.
RMC.
Welcome, Silvino. Are you okay? And are you happy to be here?
I am very happy to be in the big club Tottenham.
Jusqu'à minuit, c'est l'after foot.
I want to win here, you know, before. And after that, go we see. Or we go to fish.
Hein? Nicolas Jamain.
Bonsoir à toutes et à tous. L'after est là, comme tous les soirs, jusqu'à minuit. L'after à la seule émission au direct, 7 jours sur 7, dans le monde. L'after à la télé sur RMC Sport News. L'after à la radio, bien sûr, sur RMC. Casting du soir. Bonsoir, Jonathan Macardy.
Salut, les amis.
Bonsoir, Ludovic Obraniak.
Bonsoir à tous.
Et un invité de l'after ce soir. Il a plus de 200 matchs en pro. Défenseur central, il a joué à Strasbourg, où il a été formé.
On sait pourquoi il a été invité.
Voilà, cher à GB, Gilbert Bribois, qui a priori ne sait pas ce qu'il est. Hein, il est capable de dire également. Ouais. Puis un passage à l'Eintracht Francfort, qu'il a acheté 2,5 millions d'euros. Et ouais. Boulogne-sur-Mer, Alger, Sfax, c'était rapide. Sarpsborg en Norvège, international algérien. Ouais, une sélection, mais ça compte. International algérien.
Il a pris les équipements.
Bien sûr.
Il a pris les équipements.
Tu fais la Coupe du Monde surtout. C'est ça qui compte.
Et oui, quand même.
C'est ça qui compte.
Bonsoir, Habib Belaïd.
Bonsoir à vous.
Salut, bienvenue à vous.
Surtout Strasbourgeois, c'est vrai, comme disait Jonathan.
Bah, mais on
dans
sait pourquoi il est là.
Esprit Strasbourg.
C'est
quoi.
Tout. Il est Strasbourgeois, cherche pas.
Non, et pas de question.
Tout de suite.
Pas de réseau ici. Bienvenue, Habib.
Merci.
Tu connais l'after ?
Bien.
Tu t'attends à t'en prendre quelques-unes quand même ce soir ou pas ?
Paraît-il maintenant. Après, je sais me défendre aussi, donc il n'y a pas de souci.
Bon, c'est dans la sphère de l'élégance, donc on reste poli, nous, hein, Jonathan ? Toujours ?
Exactement,
toujours. Constance.
Évidemment.
D'accord ?
Évidemment.
Et on est là jusqu'à minuit, bien sûr. Le 32-16 est ouvert. Appelez-nous, supporters lyonnais, supporters lillois, nîmois également. Appelez-nous au 32-16, le hashtag RMC Live, l'application Direct Studio sur rmcsport.fr. On lira vos messages, bien sûr, et vos questions. Mais d'abord, comme tous les soirs de match dans l'after, l'essentiel, c'est les trois points.
L'important, c'est l'essentiel.
Le plus important, c'est les trois points.
Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important.
Mais on va commencer par Habib, justement. Tes points, Habib.
Mon premier point, ça va être le vrai renouveau de Lille. Ah, vraiment, c'est après trois victoires consécutives, je pense qu'ils ont digéré ce début de saison avec la Ligue des Champions. Donc voilà, aujourd'hui, c'est on a vu une vraie belle équipe de Lille. Donc assez content de ce que j'ai vu aujourd'hui. Mon deuxième point, ça va être Renato Sanchez.
Oui.
Parce que c'est un joueur qui a été énormément critiqué.
Oui.
Qu'il soit à l'époque au Bayern ou même aussi en début de saison ici à Lille. J'ai l'impression que, je sais pas, c'est peut-être que moi, mais qu'il a perdu un petit peu de kilos. Qu'il est beaucoup plus véloce.
Ça y est.
30 secondes, c'est vrai.
Vas-y, dernier point.
Et le dernier point, ça va être la défaite de Nîmes, qui aujourd'hui nous fait très peur parce qu'ils ont pris 10 buts en 2 matchs.
Et oui.
Donc ça peut être assez problématique.
Ouais, Nîmes qui est dernier de Ligue 1 au goal average désormais. Ludo.
Mon premier point, c'est retour gagnant. Memphis et Depay et Oussem Aouar étaient de retour. Et force est de constater qu'ils ont un impact considérable sur cette équipe de Lyon. C'est la seule chose que j'ai vue de vraiment intéressant ce soir, puisque Nîmes s'est un peu sabordé. On n'a pas vu un grand Lyon. Alors on peut estimer que c'est aussi en vue du match capital qui arrive. Je dirais Lille, mon deuxième point, ça sera le LOSC au bon endroit, au bon moment. Voilà, il était important de recoller au wagon de tête. Lille le fait bien et à un moment capital puisqu'il restera, il me semble, 2 matchs avant la trêve. Et si ils arrivent à digérer cette Ligue des Champions, ils peuvent être très dangereux sur la deuxième partie. Troisième point, Nîmes, le cauchemar continue.
Wow.
Lâchez pas, accrochez-vous. Vous nous avez donné beaucoup de plaisir la saison dernière. Il y a moyen de s'en sortir par autre chose que ce que j'ai vu ce soir.
Cette année.
Voilà, 12 points à Nîmes, 12 points à 3 journées de la trêve hivernale. Jonathan.
Ouais, OL en trompe-l'œil, une victoire large 4-0, mais au final on n'a pas vu grand-chose, un manque de lien entre le milieu et l'attaque, toujours des problèmes de collectif dans la construction des phases offensives, donc Lyon doit encore progresser. Deuxième point, Nîmes, écoute, c'est un cauchemar à tous les âges comme vous l'avez dit, donc je pense qu'ils n'ont pas forcément les moyens de faire comme l'an dernier, sachant que l'an dernier ils avaient Ferry et TJ Savagnier au milieu de terrain qui leur sauvaient pas mal de choses, et puis c'est surtout illustré par les conflits entre Boissier qui risque de repartir une nouvelle fois, Blackard qui est sur la sellette et les conflits avec le président. Troisième point.
Blackard, il n'a plus très envie de rester à Nîmes.
Et les trois points, tu me coupes pas, monsieur. Vas-y. Troisième point, c'est sur le LOSC. J'ai beaucoup aimé le match du LOSC. Sans un grand Larsonneur, je pense que ça aurait fait plus qu'un zéro. C'est la troisième victoire d'affilée consécutive sur le score de 1-0. Lille recolle et on commence à retrouver des choses très intéressantes avec un effectif qui s'affirme.
Lille, ça, merci Jonathan. Voilà pour les 9 points de l'after ce soir. Lille s'impose 1-0 face à Brest grâce à Osimhen. Nîmes balayé par Lyon 4-0, doublette de paille, Aouar. Et tiens, Joachim Andersen qui a marqué. Le classement surtout, vous le disiez, Lille, ça paraissait improbable, il y a encore 3 semaines. Ouais. 3ème de Ligue 1 avec 28 points.
3 victoires, mon pote. Hein.
3 victoires, 9
c'est
points.
Le championnat, voilà. C'est le championnat cette année. Hein. Ouais, tu gagnes 2 matchs d'affilée.
Ouais, mais les gars, on va en parler, ça commence à se dessiner quand même. Hein. En tête, on a Paris, Marseille, Lille, Bordeaux, Lyon. Saint-Etienne, Montpellier, Rennes, on a les meilleures équipes de Ligue 1 qui sont là.
C'est le Moc
Monaco.
Pour moi, c'est le quintet de finale.
Quintet de finale.
Ouais.
C'est-à-dire, tu mets Lille Lyon.
Je mets Lyon top 5 quand même parce que Lyon top 5 parce que Lyon deuxième partie de saison c'est
Montpellier
c'est,
les amis
forts. Ça fait toujours fort.
Et Montpellier les amis.
Ouais,
mais avec ce championnat là tu peux parler aussi de
non mais surtout
c'est surtout en termes du contenu de l'effectif
Montpellier,
de la trajectoire
ça tient la route et le président Nicolin a assuré cette semaine
de Lyon, l'effectif de Lyon
qu'il allait continuer et renforcer probablement encore cette équipe.
Paris, Marseille, Lille, Bordeaux 4e, Lyon 5e ce soir, 25 points. Saint-Etienne 6e, Montpellier 7e, Rennes 8e. Bon, il y a aussi Monaco qu'on n'oublie pas, hein, qui est 13e avec 3 victoires d'affilée.
Ça peut bouger, de toute manière.
Monaco, tu pas tes problèmes de défense. Tu pourras pas ambitionner un peu.
Ils ont fait signer un jeune Serbe, là.
Exactement, 18 ans.
Très prometteur.
Pavlovic.
Ouais. Hein? Pavlovic.
Tu connais le réflexe?
Bah, le réflexe de Pavlov, bien sûr.
Ouais, quand tu tapes sur le genou et.
Oui.
C'est ça?
Ou quand tu. Non, bref. Continuons. Enchaîne.
Oh, le gars, ça y est. Enchaîne. After de l'élégance.
Et c'est pour ça que je n'ai rien dit.
Voilà donc pour les points de débat de ce soir. On va commencer par le débrief de Nîmes-Lyon, bien sûr. Appelez-nous, supporters lillois, lyonnais. Et Nîmois, bien sûr, beaucoup de colère. Hein. D'ailleurs, ça a été un peu chaud en tribune. Quelques supporters nîmois se sont pris à la délégation lyonnaise en tribune. Le pauvre Yann Gambiwa, hein, 19e homme ce soir à Lyon,
était pris à partie.
Il a répondu, c'était chaud. C'était verbal seulement. Donc voilà, dur pour Nîmes. Lyon, 5e de Ligue 1. Messieurs, on rappelle deux cartons rouges. Hein. Théo Valls exclu dès la 5e et Gaëtan Paqui à la 40e. Que faut-il retenir de la victoire lyonnaise ce soir, Ludo?
Bah, je te l'ai dit en préambule dans mes trois points, c'est que Memphis est le capitaine, le meneur, le taulier, ce que tu veux, et que Lyon, ce Lyon-là, devra muter en quelque chose de beaucoup plus, comment dire ça ?
Cohérent.
Solaire, ou je sais pas comment dire ça,
oui,
pour pouvoir garder ce joueur fantastique.
Ah, Memphis.
Ouais. Parce que à ce niveau-là, il va partir.
Mais et pourquoi pas cet hiver d'ailleurs.
Et si Lyon veut espérer
la première ligue et
continuer à grandir, il se doit absolument de construire autant autour de ce joueur-là. Est-ce que Lyon en a les moyens? Oui, financiers, je le pense. Est-ce qu'ils en ont l'envie? Je sais pas. Mais en tout cas, ça serait bonne pioche.
Jonathan.
Ouais, écoute, Ludo a tout dit, hein, c'est une prestation qui est totalement
parce que les
moyenne.
Gars, à 1-0 à l'heure de jeu quasiment, ouais, on se dit mais c'est pas possible.
En fait, le problème c'est
ça
que ce match,
il y a pas de mouvement.
Nîmes se saborde parce qu'ils jouent. Tout d'ailleurs, ils jouent à 9. Alors le problème de Nîmes, on y reviendra après, c'est que l'année dernière ils avaient cette agressivité, mais ils avaient aussi de la qualité technique avec Savanier et Ferry qui organisaient beaucoup de choses au milieu de terrain. Là, ils ont plus ça, donc forcément ils se retrouvent à 9 d'une manière un petit peu bête. Je trouve que la deuxième expulsion est peut-être un petit peu sévère eu égard au premier carton jaune. La deuxième expulsion, celle de Paquet, elle est un peu sévère parce que le premier carton jaune, il a un brin sévère. En revanche,
enfin le deuxième carton jaune, c'est enfin le mec qui le découpe.
Oui, mais sur le premier, c'est sévère. D'accord, c'est un deuxième jaune. Okay. En revanche, sur la prestation de Lyon, écoute, on a du mal à voir ce que veut faire Rudy Garcia. Il est sauvé par des individualités qui sont de très grande classe, à l'image de Memphis Depay. Il est sauvé parce qu'il joue le match à 11 contre 9 face à des Nîmois qui sont l'ombre d'eux-mêmes. Et au final, on n'apprend pas grand-chose. On n'apprend pas grand-chose, si ce n'est que Memphis Depay est un super joueur. Kousem Aouar revient bien. Il faut le dire parce que quand même, Kousem Aouar, on l'adore. Hein. Pour moi, c'est la plus petite rockstar de l'équipe de France.
Ils ont joué dans un fauteuil ce soir.
Et voilà. Et surtout, s'il y a une chose de positif que je mets au crédit de Rudy Garcia pour une fois, c'est que j'apprécie le fait qu'il intègre progressivement les jeunes du centre de formation, à l'image de Cacré qui rentre, il avait fait avec Cherki. Voilà, il y a quand même du matos.
Est-ce qu'il a vraiment le choix? Il le fait parce qu'il y a pas.
Bah, tout le monde est blessé. Il peut mettre Touzard.
Ah mais Touzard, je pense pas que Touzard il est un petit peu aussi sur pour mardi. C'est
aussi, t'as raison. Mais il leur donne leur chance au moins.
Il donne la chance aux jeunes parce que je pense que quand il s'est présenté devant Olas et Juninho, il a dit voilà, je vais faire jouer les jeunes, je vais sortir les jeunes sur formation et tout ça. Donc cet entretien d'embauche, je pense qu'il a été réussi, peut-être plus que réussi. Maintenant, là où je vais être d'accord avec toi, et c'est vraiment sur Depay et Aouar, l'OL sans eux, c'est pas la même équipe. Voilà, tout simplement. Ouais. Clairement, c'est pas le même jeu.
Et l'avenir doit passer avec eux si Lyon.
Voilà. Mais l'avenir attention, parce que Aouar, on l'adore, mais il a quand même fait un début de saison catastrophique.
Oui. Clément est avec nous, supporter lyonnais 32-16. Salut Clément.
Salut.
Bienvenue dans l'After, Habib Belaïd, Ludovic Obraniak et Jonathan Magali t'écoute. Bon, est-ce que toi tu retiens la victoire sur la forme? Ok, 3
non,
points.
Non.
Sur le fond, t'en penses quoi?
Ouais, en fait, j'espère vraiment que personne va s'enthousiasmer de cette victoire-là, 4-0. Parce que franchement, mais qu'est-ce qu'il y a, quoi? Il n'y a plus rien. Finalement, en fait, ça fait 3 ans qu'il n'y a plus rien, mais c'était masqué parce qu'on avait des individualités qui faisaient la différence. Et surtout aussi, on était une équipe de contre. Et
c'est vrai.
Mais dans le jeu, il y avait rien, vraiment rien. On s'en tirait grâce à nos contres qui étaient assez fulgurants, c'est vrai. Et là, cette année, en fait, on a même plus ça. C'est-à-dire que dans le jeu, c'est encore pire qu'avant, donc c'est dire. Et en contre, on peut même plus jouer sur notre vitesse de contre. C'est-à-dire qu'on n'a plus rien, en fait. On a, on a plus que Depay, mais tu l'enlèves, il y a vraiment plus personne. Et qu'est-ce qui reste, quoi? Mais c'est, pour moi, ce soir, c'est indigne. C'est indigne. C'est 4-0, mais c'est indigne.
T'as pas eu peur de te faire égaliser à un moment?
Mais si, je te dis, à l'heure de jeu. Ouais.
Après, à un moment donné, quand tu joues à 11 contre 9, c'est une situation qui est difficile. C'est-à-dire que t'as deux
lignes de 4.
Non, mais je peux.
Vas-y, Abby.
Voilà, donc t'as tes deux lignes de 4.
J'attendais ça à quelqu'un.
T'as tes deux lignes de 4 qui sont devant ton but. Et il faut trouver du mouvement, il faut trouver du jeu entre lignes, tout ça. Aujourd'hui, il n'y avait pas ça à Lyon. On est d'accord que.
Mais justement, si je peux répondre à ça, c'est que. À un moment donné, je me suis dit justement, Lyon se met dans un fauteuil, comme a dit tout à l'heure Ludo, je crois. Okay. Lyon se met dans un fauteuil, on joue tranquille, donc c'est normal. Mais non, ça on aurait pu le dire si on jouait bien les autres matchs. Mais en fait, là, justement, c'est révélateur de tous nos autres matchs où on n'a aucun jeu. Et là, c'est criant. Contre une équipe qui a deux de moins que nous, je pense pas qu'on a joué dans un fauteuil. On était au maximum, je pense. Parce qu'on a pas d'idée. Enfin, mais vraiment, je pense que ça.
Dans un baquet. T'as joué dans un baquet.
Et là, ben.
Des joueurs suffisamment créatifs à l'image de Oussem Aouar et de Memphis Depay pour organiser ton équipe de manière à ne pas te retrouver dans ce genre de situation. Mais le plan de jeu de Rudy Garcia depuis qu'il arrive à l'Olympique Lyonnais est très limité. Alors on sait que c'est un coach qui est tactiquement très très limité, qui base ses succès comme il a la première saison à l'OM on fait un esprit de groupe, etc.
Tu peux pas dire ça. Il a gagné un championnat de France, il a ramené Marseille.
Merci le coach d'avant qui avait
Christophe Rocancourt,
arrêtez.
Mais peu importe.
Et à Marseille,
quoi,
c'était un scandale. Il a détruit le club. Non, mais il faut pas lancer la
chaîne. Parce qu'on a Habib.
Il a détruit le club.
Laisse-le parler. On peut discuter. Tu t'énerves. On discute. Bon, maintenant, avec Lille, il est quand même champion.
Vas-y, Habib, amuse-toi.
On est d'accord.
Merci
Bielsa. Merci tout ce qui passait avant, c'est ça?
Mais parce que t'as pas su ce qui s'est passé. C'est Rudy Garcia a eu du succès quand il est arrivé parce que de toute manière son discours au sein du vestiaire, on le sait, c'était on est ensemble, on va poser les couilles machin et tout, mais tactiquement il y avait rien dans cette équipe. C'était juste des joueurs très courageux qui se sont donnés à 10 000%, qui avaient en objectif la Coupe du Monde à la fin d'année, ce qui fait qu'un joueur comme Dimitri Payet a été régulier sur 6 mois, mais tactiquement il y avait rien. Et c'est apparu lors de la seconde saison où en plus il a perdu la main sur son vestiaire et où en plus d'avoir dilapidé l'argent d'une Champions Project en engageant des Grégory Sartic à 300 000 euros par an sur 3 mois parce qu'ils ont les mêmes agents, mais ça faut pas le dire. Bref, c'est un entraîneur qui a des casseroles, qui a montré que tactiquement il était très limité, qui a gagné aucun match face aux grosses équipes, et c'est encore le cas face à Lyon. Je rappelle juste le résultat du match contre Lille la semaine dernière. C'est un entraîneur qui est incapable de faire face à l'adversité. Regarde juste ses résultats en Ligue des Champions ou ses résultats avec l'OM contre des équipes du top 5. C'est un entraîneur qui est limité. Il n'a aucune réponse tactique. Pour revenir sur Lyon, on voit très bien que son plan de jeu n'est pas clair. Ça fait quand même un petit bout de temps maintenant qu'il est arrivé. On devrait sentir quelques prémices. Et là, très franchement, d'avoir récupéré Memphis Depay, je trouve que c'est un mal pour un bien. C'est un bien parce que c'est un joueur super, mais c'est l'arbre qui cache la forêt. La forêt des lacunes tactiques de Rudy Garcia,
selon toi. Clément, dans un instant, vas-y, Habib. Je rappelle qu'il est champion de France avec Lille.
C'est ça,
avec
à un moment donné.
Merci, Claude.
Avec la Roma et l'Enchaîne.
Tout ce qu'il fait, c'est merci l'entraîneur d'avant.
Merci, Eden Hazard. Merci, Ludo. Merci, Claude Puel. Merci.
Mais tu
je te dis pas que c'est l'entraîneur.
Attends, laisse, donc mais... ça veut dire que l'année où il est champion avec Lille, avec Ludo et etc. Tu mettais n'importe qui, ils auraient été champions.
Non.
Ah il a voilà, fait du bon travail, c'est ce que tu es en train de dire. Que
il va bouffer sur cette année alors.
T'es en train de dire que tactiquement peu, c'est une pipe. T'es en train de dire que comment il s'appelle La Brune, c'est pas juste un entraîneur. Ola, c'est pas juste un entraîneur.
La Brune. C'était Jacques Henriero.
Oui. Bon, d'accord, okay. Peu importe que l'entraîneur de le président de Marseille ne s'est pas choisi un entraîneur, que le président de Lyon ne s'est pas choisi un entraîneur, que
c'est le pire président de l'histoire de la Ligue 1, le président de l'OM.
De la Roma ne s'est pas choisi un entraîneur, à un moment donné.
Comment ça s'est fini à la Roma, Habib?
Ça reste.
Habib, comment ça s'est fini à la Roma?
Mais pour qu'un entraîneur
Rudy Garcia.
Pour qu'un entraîneur parte, il faut que ça se finisse mal. Ouais, t'as jamais vu un entraîneur qui se virait parce que ça se passe bien.
Ça s'est fini.
C'est pas possible.
Ouais, mais, non, mais...
C'est comme les couples. Hein,
général, mais voilà, mais tu peux te séparer, te faire casser un peu de vaisselle et tu te sépares à l'amiable, ou tu peux te séparer en faisant la politique de la terre brûlée. Et le problème, c'est qu'à la Roma, il a fait pareil qu'à l'OM. Il a dilapidé une partie des finances du club pour recruter Yangambi, Wadine et compagnie. Et qu'à la fin, c'est vraiment très très mal fini.
Clément, on arbitre du débat sur Garcia. Ludo d'abord.
Non, mais il faut rendre à César ce qu'il y a à César. Rudy, il a eu un impact, comme tous les joueurs de cette équipe-là, comme tout le groupe, sur le résultat final. Après, il a fait... C'est vrai qu'il est... Il est très bon, notamment quand il arrive. Et c'est vrai que c'est difficile pour lui de durer. Il l'a fait à la Roma, il a fait une très bonne entrée en matière.
Puisqu'il, 10 victoires, je crois.
Il concurrence quand même le... Mais c'est vrai que sur la durée... C'est un entraîneur qui a du mal à garder une cohésion de groupe par rapport à ses choix qui sont souvent pragmatiques, on va dire. Dire qu'il a tendance à utiliser quand ça va bien et puis à délaisser quand ça va plus mal. Donc c'est sûr que les joueurs, des fois, ça peut créer des tensions.
Ça marche aussi parce que quand il arrive... Il faut lui reconnaître ça. Il est quand même charismatique. Il a une certaine, il dégage une certaine sympathie.
Après, et je pense qu'il joue après, pas mal Jonathan, dessus. Par rapport au, tu me parles de plan de jeu. C'est vrai qu'il y a des. Pour moi, il y a aujourd'hui 3-4 coachs qui inventent vraiment des choses où que tous les autres copient. C'est-à-dire qu'il y a Klopp, Guardiola, et puis t'en as un ou deux autres, Bielsa. Voilà, des mecs vraiment atypiques que les autres ont copiés. Il y en a pas 50.
Ah non, c'est-à-dire
que pour moi, c'est souvent aussi les joueurs que tu as. Qui font aussi la qualité de l'entraîneur.
Ludo, là, il a de la qualité quand même.
Qui
à Lyon, il y a quand même des
gens. Attends, les gars, avant qu'on parte en pause, il y a Clément.
Après, voilà, tu vois, Lyon est constamment sur le fil du rasoir. Ça fait un moment maintenant, ça fait des saisons. Et quand tu es sur le fil du rasoir, comme ils l'ont été, tu peux pas te permettre de laisser comme ça filer un match parce que tu gagnes 1-0 et que les autres sont à 9. Tu vois, alors ce soir, après, moi, la seule excuse que je peux trouver, c'est voilà, t'as le match hyper important dans quelques jours.
Mardi
et
soir.
Encore, je pense que cette équipe, elle a besoin de se donner tout le temps à fond. Elle fait tellement les choses à moitié qu'il faut s'habituer maintenant à forcer sa nature. Ouais. Ces mecs-là ont pas l'habitude d'aller chercher leurs limites, de pousser leur nature. Et ben, ça leur joue des tours quand les moments importants arrivent.
Clément, rapidement, sur Garcia, toi, t'es.
Mais bon, je pense que Garcia est évidemment pas l'homme de la situation. Après, à sa décharge, il arrive dans une équipe qui est vraiment pas bien. Ça fait pour moi 3 ans que cette équipe est inhibée. Il y a comme un complexe au niveau de l'envie, du jeu, etc. Il n'y a pas d'idée. Mais forcément, c'était un bâtisseur qu'il nous fallait. C'était un bâtisseur. Ouais. Et autant finir la saison vraiment avec Silvino. Tu sais que Garcia va pas te faire de miracle. Ouais. Et même si on finit pas sur le podium, termine l'année avec Silvino, prend un coach.
Non, mais tu peux pas lui enlever qu'il connaisse au moins la Ligue 1.
Clément, ce qui aurait ce qui aurait été bien de faire, c'est de patienter jusqu'à la trêve.
Ouais, exactement.
Il y a des entraîneurs des grands entraîneurs qui se seraient libérés.
Laurent Blanc aurait été dispo. Ah, c'est déjà dispo.
Non, merci Clément. Excellente soirée à toi. Tu vas continuer dans l'after.
Lucien Favre, peut-être.
Favre. Ah, ça va mieux. On verra.
Ouais.
L'after est là jusqu'à minuit avec Habib Belaïd, Ludovic Obraniak et Jonathan Macardy. Habib Belaïd a découvert Jonathan Macardy en mode Yakuza ce soir. Trois boutons ouverts, le costume, trois pièces. Attention à vos petits doigts. Allez, à tout de suite, c'est l'after, revient.
RMC. L'after foot. RMC. L'after foot. Nicolas Jamain.
Oui, l'after est là jusqu'à minuit, bien sûr. Ensemble, on débrief le début de la 16e journée de Ligue 1. Je vous rappelle les victoires de Lyon 4-0 à Nîmes et de Lille 1-0 ce soir face à Brest. Brest qui en met 5 en milieu de semaine à Strasbourg et qui perd ce soir sans vraiment se défendre. On débrief justement ce match dans un instant. Lille-Brest, Lille qui revient 3e place du classement, Lyon est 5e. Messieurs, avant d'accueillir Rodolphe, supporter nîmois, qui va nous parler de l'arbitrage. On rappelle que Nîmes a joué plus de 50 minutes à 9 contre 11.
Quelques messages sur le direct studio qui concernent Jonathan McCarthy. Pas tant sur le fond, sur la forme, Jonathan. Ça devient inaudible. Jonathan, tant que tu rigoleras, on pourra pas régler le problème, en fait. Jonathan, laisse parler les gens un peu. Tu es d'une impolitesse crasse.
Ouh, dommage merci, aussi. Merci.
Les autres ne t'interrompent pas, fais-en de même. Voilà, message pour Jonathan.
D'accord.
Oh là là, Jonathan était infernal ce soir. On dirait Daniel. Il lève absolument par les personnes.
Mais non, c'est juste, en fait, il y a des boutons, tu vois. Garcia, c'est un bouton, en fait.
Il y a non, mais je crois qu'il y a au moins 50 boutons parce que.
Mais non.
Alors, bon. Rodolphe Ferré dans un instant. Je voulais qu'on parle de quelques joueurs à Lyon, messieurs, puisqu'on a parlé de l'ensemble des Lyonnais. Bon, deux pailles, hein, pour rappel, quand même. Cette saison, c'est 16 matchs, 13 buts, hein, déjà.
Ça.
9 buts en Ligue 1, 4 en C1.
Ah ouais.
C'est quand même costaud. Hein.
Ça ne me rendait pas compte.
C'est très lourd. Et moi, je te dis, vous semblez dire qu'il ne partira pas cet hiver. On le disait déjà il y a deux mois dans l'after. De paille.
Non,
elle partira. C'est très chaud. En tout cas, en Angleterre.
Pour aller où,
Beaucoup d'intérêt en Angleterre.
Pour aller où? La question est là.
Manchester et
chaud. United
était chaud sur le.
Il vient pas de là-bas? Il vient pas de là-bas?
Ouais, oui, mais bien sûr.
À la base, Manchester a une clause qui lui permet de le récupérer à moindre coût.
Ah bon?
Voilà. Exactement. Ça a été mis dans le contrat quand il est venu, quand il a rejoint l'Olympique Lyonnais.
C'est des génies,
on verra ça plus tard. Je voulais qu'on parle quand même du duo de l'Ajax Trappé, Tété Traoré, les deux mecs Lyon a embauché. Parce que beaucoup de réactions sur l'achat de RMC Live sur ces joueurs-là. Certains nous parlent de l'arnaque de l'Ajax. Ça marche toujours pas.
Il y a eu du mieux.
Quand?
Sur Traoré pendant 20 minutes en première période.
Il y a une fulgurance, mais Traoré, c'est une fulgurance.
En fait, le problème de Traoré, c'est son implication sur l'ensemble des phases de jeu. On lui reproche beaucoup de pas être discipliné, de lâcher ses marquages sur corner, de pas faire son repli. Là, j'ai trouvé qu'il y avait peut-être un tout petit peu de mieux. Après, de là à dire que pour l'instant il justifie son prix, on est loin du compte. Et Tété, n'en parlons pas. Alors c'est les deux sont très en dessous des attentes que l'on pouvait nourrir quand ils sont arrivés.
Abib.
On a à l'époque où ils étaient à l'Ajax, on avait deux joueurs qui techniquement et tactiquement qui étaient vraiment au point. Et aujourd'hui, quand on voit Bertrand Traoré, on a l'impression que le ballon lui brûle les pieds.
Oui.
Tous les contrôles, il part à 2 mètres. C'est un joueur qui est censé avoir une qualité technique très fine. Mais on ne la voit pas. Vraiment, on ne la voit pas
en France, non?
C'est ça le truc.
L'a vu sur le match à un moment, ça mène le pénalty, mais bon, voilà.
Mais bon, c'est
rien, quoi.
C'est beaucoup trop peu. C'est beaucoup trop peu. C'est ça c'est ça son problème, quoi.
C'est quoi? C'est le syndrome, tu grandis à l'Ajax, t'es bon qu'à l'Ajax, t'as du mal à t'exporter? Non. C'est quoi le truc?
Le syndrome, il est évident. C'est que c'est un joueur, deux joueurs qui ont des belles qualités athlétiques, notamment. Et techniques aussi pour Bertrand Traoré. Tété, je me prononcerai pas. Mais je pense qu'ils ont besoin d'avoir un cadre tactique très, très structuré.
Et là, on revient à Rudy Garcia.
On est obligé, forcément.
Ludo. Comment tu l'expliques? Parce que c'est vrai que, on le voyait jouer à l'Ajax, ce gars. Enfin, je pense surtout à Bertrand Traoré.
Je crois que le meilleur ennemi de Bertrand Traoré, c'est Bertrand Traoré lui-même, en fait.
Ils sont deux dans cette
tête. Ils sont plusieurs.
J'ai l'impression que ce garçon, il se saborde tout seul parce que des qualités, il en a. Vitesse, puissance, des qualités de dribble, des qualités de passeur. On peut pas le nier puisqu'on l'a vu lorsqu'il était à l'Ajax. Après Tété, moi je le trouvais beaucoup plus limité. C'est un joueur qui a un bon volume de jeu, m'avait pas plus marqué.
Voilà. Si
l'Ajax l'a laissé partir, c'est aussi qu'il y a certaines raisons. Mais oui, Bertrand Traoré, on est toujours frustré parce qu'on en attend toujours plus. On n'est jamais vraiment satisfait de ce qu'il nous propose parce qu'on l'a vu faire autre chose. Et clairement, le Bertrand Traoré qu'on a vu en demi-finale d'Europa League contre Lyon et toute cette campagne-là, on l'a jamais retrouvé vraiment à Lyon. Ah, donc la frustration, elle existe constamment. Et puis aussi son état d'esprit, cette nonchalance. Enfin, si, dans une situation où l'OL est actuellement... Tu peux comprendre que les gens laissent pas passer grand chose. Donc le minimum que tu puisses au moins montrer, c'est un minimum d'investissement. Alors même là, c'est pas toujours le cas.
Après, ne pas confondre le manque d'investissement avec la nonchalance. Ça, c'est sa façon d'être, c'est sa manière d'être.
Ouais, bien sûr.
Donc voilà.
Ah, mais des fois, après, un peu forcer sa nature, Abib, parce que.
Tu t'as joué avec des joueurs qui étaient toujours de tension, et puis c'est pas pour autant qu'ils étaient pas à 100% investis dans ce qu'ils faisaient.
Son investissement dans les replis défensifs, sur les marquages sur corner, ils se prennent 2-3 buts, voilà. 1-2 buts récemment, parce qu'il lâche totalement.
Ça, c'est de la rigueur. C'est de la rigueur.
Il peut avoir une tête endormie, mais au moins qu'il soit prêt.
Après, il y a plein de fois où, pour sprinter, je le vois pas sprinter à fond.
Ouais. Comme t'as très bien dit, c'est voilà, il a pas été
on retrouve pas le Traoré de l'Ajax.
Ouais, pas le même cadre aussi. Hein.
On a peut-être sur deux, trois fois dans l'année, quatre fois, oui.
Mais après, je n'exclus pas l'aspect aussi psychologique. Est-ce qu'il se sent vraiment à l'aise dans ce club? Est-ce qu'il se sent vraiment à l'aise dans cette équipe? Est-ce qu'il se sent vraiment à l'aise dans ce pays, dans ce contexte? Je ne sais pas qu'il avait quitté très rapidement aussi, hein, puisqu'il est parti à Chelsea, je crois, si mes souvenirs sont bons, assez tôt.
Oui,
ouais, ouais.
Traoré, oui.
Ouais. Donc, je sais pas. En tout cas, il y a
Chelsea, Ajax, et Lyon.
Je le sens pas. C'est pas un joueur que je sens.
Un petit truc pour qui dont on parle de Traoré, donc sur un côté, donc 4-2-3-1, très bien. Je sais pas si il a fait un bon match hein, ce soir. Hein, on l'aime beaucoup, mais je sais pas si c'est viable toute une saison de laisser Oussem Aouar sur un côté.
Tu le veux dans l'axe, toi. Mais c'est pas le système.
Je sais pas s'il y a pas quelque chose de mieux à faire pour profiter
c'est un débat qu'on a
de sa vision du jeu et de sa qualité et de pouvoir mettre dans, alors, t'as du matos pour l'emplacer. Tu peux mettre Jeffrey Nadelaïd, tu peux mettre Martin Terrier.
Mais tu mets où Depay? C'est ça aussi. Depay, je pense que sa meilleure place, ça reste derrière l'attaquant.
Ouais, ça, y a pas de problème là-dessus.
En fait, on est d'accord là-dessus. Thiago Mendes et
Aouar.
Et Aouar en relayeur. Et Memphis un cran plus haut, mais c'est vrai que là, sur ton noyau défensif,
est moins solide, ouais.
C'est ça aussi. Ça complique un peu.
Et j'ai l'impression que c'est soit Thiago Mendes, soit Oussem Aouar du coup.
Il est obligé de s'appuyer sur des choses qui fonctionnent. Or, depuis que Oussem Aouar est sur le côté, peut pas dire qu'il ait fait des mauvais matchs.
Ah oui, non, mais
au contraire, depuis qu'il a été positionné là, on peut même dire qu'il développe beaucoup plus de possibilités. Son talent est plus visible à ce poste-là pour le moment, même si je sais que c'est clairement un axial.
Ouais. Tout est une question d'équilibre après aussi. Tu vois, c'est ça aussi. Si tu peux pas, comme dit Ludo, mettre et Depay et Aouar Max et tout ça.
C'est ce que je dis. C'est
vrai que Depay est extrêmement libre également dans le jeu.
Pour moi, c'est soit Thiago Mendes, soit Oussem Aouar.
Tu aurais pu le mettre avec le Thiago Mendes de Lille.
Exactement. Et d'ailleurs, rappelle-toi en début de saison que Mendes serait devant la défense.
Celui qu'on voit depuis le début de saison, t'es obligé de garder une sécurité avec Touzard ou autre dans les matchs en tout cas.
Moi, vous voulez trouver comment Mendes
ses côtés. Vous voulez
trouver comment Mendes.
Ben c'est dur à juger. C'est 9 contre 11.
Sur les trois derniers matchs, vous le trouvez comment?
Par rapport à ce que moi j'ai vu la saison dernière, c'est largement insuffisant.
Largement insuffisant. Et pourtant, il enchaîne les matchs. Tiens, un mot également sur les petits jeunes du centre de formation, Maxence Cacré, deuxième titularisation. C'est le Lyonnais, messieurs, qui a récupéré le plus de ballons dans le match. Hein. Une grosse dizaine de ballons ce soir.
Il est bien. Et il est propre, techniquement ça va, mais surtout ce que j'aime bien, malgré son gabarit, il est encore en pleine croissance, c'est qu'il est méchant dans les duels. Alors, il aurait pu se faire aussi expulser à un moment, en deuxième période. Peut-être pas expulsé, mais du moins, il était limite. Mais j'avais l'agressivité qu'il met, quoi.
Croissance, il a dit, t'as cru, il avait 13 ans, quoi.
Mais là, quoi, elle a 17 ans.
Oui. Maxence Cacré.
Quand t'as 17 ans,
il avait 11 ans.
Ludo, t'es encore en croissance, toi.
À 17 ans. Ouais, Ludo, il est en croissance. Depuis la retraite, il est en croissance. Prends exemple sur Habib, il est fit, regarde.
Ah, 19 ans, Maxence Cacré.
À 19 ans, t'as pas fini ta croissance.
A priori.
Non, mais tu vas t'épaissir.
C'est fou, à 19 ans, c'est
95 ans. Là, il est quand même comme ça.
Mais je crois qu'il ne faut pas le changer fondamentalement, ce gamin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut tirer son épingle du jeu. Beaucoup l'ont déjà montré. Si tu es petit, comme ça, frêle, tu peux justement trouver ta place en jouant différemment. C'est-à-dire, ce garçon, il a une faculté à être assez vif, des appuis très bas, un centre de gravité où, qui lui permet de se retourner, d'être vif. Donc, il faut se muscler trop, c'est prendre du volume, c'est prendre du poids, c'est dénaturer ce dont il a... tout ce qu'il a construit depuis sa formation. Donc il faut le laisser tel qu'il est. Moi je le trouve.
Moi je pense qu'il va enchaîner. Bon. Hein.
C'est un garçon qui doit fuir les contacts. En fait le ballon doit être déjà parti quand le mec arrive sur lui.
Et ça
c'est un garçon qui peut jouer une touche, deux touches.
C'est ce qu'il fait.
Mais oui, c'est déjà ce qu'il fait.
Il joue extrêmement simplement.
Et il le fait très bien.
Voilà pour le débrief de Lyon. Lyon, Nîmes à présent, messieurs, on le disait, la terrible semaine pour les crocodiles. Hein. 6-0 à Bordeaux, mercredi soir. 4-0 ce soir dans les conditions qu'on a déjà décrites, hein, à 9 contre 11, après l'expulsion de Valls et de Paquier. J'accueille Rodolphe, supporter Nîmes au 32-16. Bienvenue Rodolphe.
Oui, bonsoir.
Salut Rodolphe.
Salut Rodolphe. Salut.
Bienvenue dans l'after. Habib, Belaïd, Ludo Bragnac et Jonathan Macaré t'écoutent.
Voilà, donc vous avez analysé le match parfaitement, hein, y a pas de souci sur ça. Nîmes est dans le gouffre actuellement, hein, c'est très difficile pour le Nîmes Olympique, en interne également, avec les supporters et la direction, c'est très difficile. Par contre, ce soir, mon gros coup de gueule, ça fait 2 ans que je vais au stade, les 7 premières équipes du classement ne sont pas arbitrées comme les 13 autres, c'est pas possible. on a une différence d'arbitrage entre les sept premiers et le reste. Ce soir, M. Tual, il a tué le match. Il a tué le match en sortant un rouge très, très, très rapidement. Il a même pas analysé, il a même pas pris de temps d'analyser.
Rodolphe, est-ce que tu peux vraiment faire autrement sur cette première action?
Je sais pas, Ludo. Ah, c'est pas évident le rouge. Hein.
Franchement,
le pied haut, c'est vrai que.
Ouais. Pourquoi il attend pas? Pourquoi il attend pas? Pourquoi il sort dessus? Ouais.
T'as raison, Rodolphe. Il peut attendre de voir l'intégrité physique du joueur. Pour moi, ça valait un gros, parce un jaune touche, très orangé, coup, mais pas forcément rouge. Hein.
C'est pas un crampon plein de cuisses, tu vois, non plus. Hein.
Après, il l'effleure pas non plus. Ah, mais
t'es défenseur, toi, tu j'ai maîtrisé ou pas comme geste?
Alors j'étais au stade moi, hein. J'étais au stade, je suis un peu loin, je le vois pas. Sur le penalty, on voit qu'il y a quand même une petite obstruction. Je pense qu'il y a penalty. Hein.
Oui, il y a penalty. Sans souci, oui.
Voilà. Toi, tu parles du carton rouge de Théo Valls en fait.
On a
un outil qui s'appelle la VA.
Ouais.
Donc aujourd'hui, je crois qu'il a quand même sorti le carton.
Tout de suite.
Le problème qui se pose, c'est l'intensité. C'est-à-dire que la VAR, il voit une action ralentie et l'intensité de l'action d'accord. Fait
mais,
que
mais,
ça pourrait...
Et toi, en tant que défenseur,
tu vois ce que je veux dire,
c'est rouge ou c'est jaune?
À un moment donné, t'es Nîmes Olympique. T'as pris 6-0 la semaine, enfin mardi contre Bordeaux. Tu rentres sur le terrain, t'as une électricité sur ta électricité en toi. Tu vois ce que je veux dire? T'es là, tu sais, les premiers contacts, il va falloir que peut-être pas tu soulèves les joueurs parce que voilà, mais t'as
la maison. Que t'es là, ouais.
Voilà, t'as besoin de montrer aussi à ton public parce que t'as la maison. Voilà, qu'on va rien lâcher, qu'on va tout donner, tout ça. Ok, peut-être un petit peu trop d'intensité sur le contact. On va pas l'enlever. Maintenant, l'arbitre doit aussi être assez intelligent pour dire bon, je suis capable de juger parce que là, un carton rouge au bout de 5 minutes. Ça biaise le match. Le match est biaisé, c'est fini.
Après, par rapport à ce que tu dis, Habib, et par rapport à ce que Rodolphe tu dis, il y a quelque chose. Ce qu'on appréciait l'an dernier à Nîmes, c'était cet engagement, cette volonté, cette grinta, cette.
Mais il y avait déjà ces problèmes là.
Ouais, non mais Rodolphe, tu avais ça, mais tu avais en plus de la qualité. De la qualité avec Didier Sabagné, de la qualité avec Ferry. Et là, le problème, c'est que maintenant, t'as l'impression que Nîmes devient un petit peu une caricature de ce qu'elle le.
T'as
de ce
plus les mêmes joueurs, hein. T'as été
débridé. Oui, bien sûr.
Rodolphe, juste pour revenir, pour être très clair avec toi, le deuxième carton jaune, rouge, il est logique, quoi.
Oui.
La faute de l'énorme.
Le deuxième jaune, il est clair.
C'est le premier qui est
le premier porte discussion.
Est-ce que le premier jaune, il est. Et pas sévère.
Il est très sévère, Rodolphe.
Il est très sévère, t'as raison.
Il est très sévère, Rodolphe.
Le rouge de Val, s'il y a débat. Donc, il n'y a pas forcément polémique. Il y a débat. Ludo pense que clairement, il y a rouge. Moi, je ne suis pas convaincu.
Sur le premier.
Il y a débat. Après, quant au penalty, il y a penalty.
Ça, il n'y a pas de souci.
Du coup, Rodolphe, j'ai du mal à suivre vraiment ton.
Mais le deuxième jaune.
Après, là.
J'étais au stade. Il y a beaucoup de petites erreurs d'arbitrage, des mains pas sifflées, des petits contacts. C'est plein de choses comme ça. Alors, au niveau des arbitres, à un moment donné, ils ont une commission. Je pense qu'ils ont des notes. Ils revoient leur match. À un moment donné, ces gens-là, samedi prochain, il ne faut pas qu'il arbitre, monsieur Tual. Il faut qu'il soit sanctionné comme
ça. De toute façon, il sera noté ou mal noté. Hein.
Rodolphe.
Attends, juste, Habib.
Là où je suis d'accord avec John, c'est que sur le premier jaune.
Il n'y a pas jaune.
Il vient de mettre un carton rouge, il peut doser. À un moment donné, oui. Il peut se dire. Je sais pas, on nous rabâche systématiquement la psychologie.
Sur quoi? Sur le deuxième jaune?
Sur le premier jaune.
Ouais. Premier jaune.
Il vient de mettre un carton rouge. À un moment donné, voilà. S'il met pas ce carton jaune, ça fait pas deuxième carton rouge. Voilà. L'effet domino.
Moi, je pense qu'il y a un arbitrage à deux vitesses. Voilà.
Rodolphe, je peux comprendre ta frustration. Il n'y a pas de problème là-dessus. Il y a des faits de jeu qui sont un petit peu curieux. Il n'y a pas forcément, tu l'as très bien dit, pas juste le carton, le penalty et l'expulsion. Il y a deux, trois phases de jeu ou même des touches où c'est bon, on comprend pas trop ce qui se passe. Ouais. Par contre, ce qu'il faut vraiment dire, c'est que Nîmes se saborde aussi tout seul. Parce que on sait qu'en interne ça va pas du tout. Tu l'as justement dit entre Boissier, Blacard et le président, c'est la merde.
Attends, on va rappeler que Boissier va quitter Nîmes. Ça y est,
il va re-quitter Nîmes. Mais surtout,
qui est revenu pour repartir, tu vois.
Mon analyse, c'est que le recrutement cette année il est raté.
Comment ne pas le louper? Comment ne pas le louper? Il est revenu au dernier moment.
Et des joueurs que tu as souvent, sûrement mésestimés. Qui t'apportait un vrai plus, Alioui, Tube,
ouais.
Qui paraissaient pas des Bouanga. Joueurs qui pouvaient
Bouanga
être
indispensables.
Non mais Bouanga, tu sentais que c'était un joueur qui allait prendre une autre dimension. Donc encore je crois qu'ils l'ont pas vendu très cher.
Ils l'ont pas surdimensionné.
Mais tu vois des joueurs, des vrais joueurs comme Tube, Alioui, il fallait les garder un an de plus. Ouais. En fait, la vraie, j'en veux à votre président, parce que cette année, c'est une année charnière. C'est une année charnière parce que si tu arrives à pérenniser, si tu arrives à maintenir Nîmes cette année, tu peux pérenniser le club avec l'augmentation des droits TV et tout ça. Donc, il était peut-être pas judicieux de faire autant de changements.
Il est entièrement d'accord avec toi.
Cet été, tu aurais pu attendre un an de plus.
C'est surtout
en donnant. Et je suis sûr que Tchoub et Alioui seraient restés bien volontiers.
Tchoub, Alioui, et t'oublies aussi une grosse perte. On se parle souvent de Savanier Ferry.
Non, mais Savanier Bichon. Savanier Bichon, bien sûr.
Bobichon manque.
Mais Savanier, tu pouvais pas le garder.
Non.
Tu sens qu'il.
Pourquoi t'es pas d'accord, Adolphe, avec Bobichon?
L'année dernière, la moitié des matchs, il était remplaçant. Il a joué une fois sur deux.
Mais il était bon quand il rentrait.
Est-ce qu'il joue à Angers? Est-ce qu'il joue à Angers? Franchement, il est tout le temps remplaçant.
Non, il n'est pas titulaire, mais il joue.
Pour moi, c'est pas une pièce maîtresse. Par contre,
tu n'aurais pas fait du bien là.
Oui, parce qu'on a personne qui tape un coup franc et un corner qui pourrait aider une équipe comme nous. Parce que l'année dernière, je crois qu'on a marqué une quinzaine de buts grâce à.
T'avais Savanier, t'es le guidé.
Tu as renforcé Angers et tu t'es affaibli.
Par contre, nous, on tente 7 coups de poker avec des joueurs de Ligue 2. Ouais. On en a un demi avec Romain Philippotto. C'est un flop complet. Donc aujourd'hui, se faire prêter des joueurs ou recruter sur le mercato, je vois pas comment on peut faire.
Après, est-ce qu'on est vraiment surpris? On a salué le travail de Boissier, mais un club de Ligue 1 qui n'a pas de cellule de recrutement, on l'avait eu l'année dernière, il nous expliquait comment il travaillait, c'est quand même de l'artisanat. Un club de Ligue 1 qui n'a pas de cellule de recrutement, c'est quand même compliqué d'espérer faire un mercato de qualité.
Mais Rodolphe, il faut que vous, les supporters qui est... Vous pesez quand même beaucoup dans la balance. On vous écoute du côté du Nîmes Olympique. Il faut que ça soit l'Union Sacrée.
Faut appeler Jean-Jacques le matin.
Il faut que ça soit l'Union Sacrée.
Avant de rentrer dans le stade, j'ai vu une petite échauffourée quand même entre un membre du Nemosus et Rani Assaf. Donc d'accord. Je pense que c'est quand même relativement tendu entre les supporters.
Mais vous n'avez pas un accès au président, un accès préférentiel?
Tu restes, Ludo.
Faut appeler Jean-Jacques Bourdin le matin.
Jean-Jacques Bourdin, apparemment, c'est une pièce
Rodolphe.
Rapportée. Ouais. Je pense que honnêtement, Rani Assaf ne s'entend plus avec Laurent Boissier. Donc là,
c'est pas apparemment.
Le prochain, c'est le départ, c'est Bernard Blacard. Si on gagne pas samedi prochain contre Nantes.
Rodolphe, écoute, tu sais, vous trouvez, voilà, vous êtes le Nîmes Olympique, vous avez le sang chaud, vous avez, voilà, aujourd'hui, ça tourne pas rond, c'est sûr que ça va exploser en dehors du stade, dans le stade. Aujourd'hui, il y a eu des échauffourées aussi, si je crois bien, avec Yangam Biwa, si je dis pas de bêtises.
Ça, en tribune.
Donc, à un moment donné, vous êtes sanguin. Aujourd'hui.
Ah, mais c'est comme ça.
L'ego de trois mecs ne doit pas tuer un club qui est en pleine ascension, qui est revenu parmi l'élite après tellement de souffrances. T'as l'occasion de récupérer des droits financiers qui vont te permettre de pérenniser le club. C'est vraiment pas le moment.
Est-ce que virer Blacard, c'est la solution?
Mettez votre ego de côté et essayez de travailler ensemble. Okay,
parce que si tu vires Blacard, tu prends qui?
Travailler en bonne intelligence.
Rodolphe Assaf a annoncé le recrutement de deux joueurs minimum cet hiver. Minimum.
Mais qui va les recruter?
C'est Rani Assaf maintenant, il va falloir qu'il se montre.
Mais qui va recruter les joueurs?
Il y a toujours des gens qui proposent.
Il faut qu'il recrute un directeur sportif rapidement.
Exactement. Et faire une cellule de recrutement.
Oui, mais dans un second temps, là, il faut que maintenant Rani Assaf il se trouve face à ses responsabilités.
Il a contacté Eric Roy, mais ce sera pas lui a priori pour aider.
Oui, voilà. Aujourd'hui, il se trouve face à ses responsabilités. Rani Assaf aujourd'hui, et peut-être dans le business, c'est bon, mais là aujourd'hui, il est en face d'un mur et on va voir ce qu'il vaut maintenant. Oui.
Merci. Merci Rodolphe.
Ciao Rodolphe.
Tu avec autre chose à l'after, bien sûr.
La bise à Toki et tous mes copains du show. Hein.
Ça roule. Allez, bonne soirée à toi, Rodolphe. À très vite dans l'after, bien sûr. Messieurs, dans un instant. Le débrief de la victoire lilloise, Lille, 3e de Ligue 1. Enfin, demain ou après-demain pour être 8e. Ligue 1. On en parle dans un instant. Les trois drôles de dames sont avec nous, Julien Laurent, Simonet Rovera et Paulo Breitner, bien sûr. L'after est là jusqu'à minuit avec Jonathan McCarty, Ludovic Obraniak et Habib Belaïd. On est ensemble jusqu'à minuit. À tout de suite.
RMC. L'after foot. Nicolas Jamain.
Avec Jonathan McCarty, avec Ludovic Obraniak et avec notre invité de l'after ce soir, Habib Belaïd. On est ensemble jusqu'à minuit. Bien sûr, vous écoutez RMC. Il est 23h25. Dans un gros quart d'heure, les trois des quatre drôles de dames sont avec nous pour un gros week-end de foot. Hein, notamment, il y a eu un Inter-Roma ce soir en Serie A. Simone Rovera sera avec nous, bien sûr. Lille s'est imposé 1-0 face à Brest. Le 9e but cette saison de Victor Osimhen. Déjà, les gars, 9 buts, les 9 à domicile. Et ouais, monsieur domicile. C'est un hasard ou pas ça?
C'est à l'image de l'équipe.
Ouais.
C'est à l'image de l'équipe. Très bonne à domicile. En difficulté à l'extérieur pour le moment. Mais ça suffit pour le moment à être
troisième de Ligue 1.
Bien placé à l'approche de la deuxième partie de saison.
Troisième de Ligue 1, Lille, plus que dans les temps. Trois victoires consécutives. Hein. Lille a battu Dijon 1-0.
1-0.
A gagné à Lyon 1-0, on s'en rappelle. Et a battu Brest 1-0. On va commencer avec des supporters lillois qui nous ont appelés au 32-16, bien sûr. On va commencer avec Benjamin. Salut Benjamin.
Oui, bonsoir l'after.
Bienvenue dans l'after, Jonathan, Habib et Ludo t'écoute.
Oui, bonsoir à tous. Bah, j'étais au stade ce soir.
Ouais.
Et j'ai vu une super prestation, une prestation collective, parce que même si on a gagné à Lyon et contre Dijon, c'était pas des matchs très très aboutis finalement. Et ce soir, par contre, on a vu du jeu. Il y a eu beaucoup d'occasions. Bon, il y a le gardien de Brest qui a fait une belle prestation en deuxième mi-temps.
On va parler de l'Arsenal.
Il y a Sanchez qui a eu une belle opportunité. Il connaît aussi. Et puis le penalty de Bamba. Mais ce qui est plaisant, c'est les trois derniers matchs, on prend pas de but. Donc on retrouve une certaine solidité défensive aussi. Et comme j'en parlais avec le standardiste avant de vous avoir, c'est malgré les buts qu'on a encaissés en Ligue des Champions, parce qu'on a joué contre des clubs qui ont une certaine expérience et on a pris quand même pas mal de buts. Et puis finalement, en Ligue 1, on se laisse pas déborder par tous ces buts encaissés en Ligue des Champions et on arrive à rester solide défensivement en Ligue 1, quoi. Donc c'est bien.
Ludo, est-ce que toi tu vois une progression, une évolution dans le jeu lillois quand même?
Lille ne joue pas. Enfin, il est toujours plaisant de regarder Lille, notamment à domicile. Moi, j'ai pris énormément de plaisir, même s'ils ont pris des casquettes en Ligue des Champions. Ils ont payé cher les erreurs qu'ils ont commises. Mais j'ai pris du plaisir à regarder cette équipe. Je me suis pas ennuyé. Dire sur le fond, ils y sont allés avec un peu plus d'ambition que les derniers clubs français qu'on a pu voir en Ligue des Champions, en tout cas pas favoris.
Ah oui, c'est sûr.
Donc certes, il y a eu des volées, mais je crois que cette équipe, elle est aussi, elle a été détruite en grande partie cet été. Elle est en reconstruction avec beaucoup de joueurs qui ne se connaissaient pas. Je trouve qu'ils ont pas fait pâle figure en Ligue des Champions. Au contraire, même si les résultats sont ce qu'ils sont, donc tu as payé pour apprendre. Maintenant, moi, j'aime beaucoup. J'ai un vrai coup de cœur pour Christophe Galtier. Vraiment, c'est.
Je crois que tout le monde pense
aujourd'hui,
un,
hein. Aujourd'hui ouais. C'est la psychologie sur les joueurs, c'est quelque chose de très important. Comment tu les amènes à retrouver de la confiance? Comment tu les motives? Comment tu les piques à un moment donné? J'ai l'impression que Christophe Galtier a trouvé la clé du groupe de la saison dernière et encore de ce groupe-là. Renato Sanchez, qui était, on l'avait annoncé.
On va en parler aussi.
Et je t'avais dit qu'il fallait lui laisser du temps et il le
laissait. C'est vrai que j'avoue, il y a trois semaines, on s'est dit fiasco annoncé ou pas.
Mais non, je te l'ai dit. Il fallait lui faire.
Il
fallait lui faire jouer des matchs. Il a besoin, ce garçon. Il a besoin de retrouver du rythme.
Il est titulaire depuis trois matchs et il est impressionnant.
C'est une machine. Le mec, il a un ratio.
Ce soir, il est à 85% de passes réussies. Je pense qu'il est à quasiment 80 ballons touchés.
Ce garçon, il a un ratio.
Il doit perdre deux ballons, quoi.
Il en a perdu deux. Il en a perdu deux. Et il gagne quatre duels aussi. Il fait six passes clés. Il fait un gros match.
Cette capacité.
C'est un très très bon match.
Et même, enfin, tu vois, ça Galtier aussi. Fallait avoir l'idée de se dire Renato Sanchez sur le côté droit. C'est pas moi qui.
Et très sincèrement, au-delà de la performance.
Il a été très bon depuis quelques temps sur ce côté. Hein.
Au-delà de la performance de Sanchez et même Osimhen qui est impressionnant, il y a Benjamin André. Qui est énorme.
Mais ça, c'est pas lui, il est égal à lui-même, si tu veux.
Lui, il est fort à Rennes.
Pour moi, il y a...
Avec le départ de Mendes, sincèrement, on était un petit peu pessimiste, quoi, au milieu de terrain. Même si Xhaka et Soumaré, qui éclore, sont quand même bons. Thiago Mendes avait fait une saison énorme l'année dernière. Et l'arrivée de Benjamin André, c'est juste impressionnant, quoi.
Il y a juste un truc qu'il faut noter sur ce match.
Attends, Benjamin, tu es avec ton enfant dans les bras ou pas?
Ah oui, j'ai mon bébé de 3 mois.
Oh, le pauvre petit, mais écoute, l'after, tu as 3 mois. Dis-le bien, after, plusieurs fois, comme ça.
Recrute jeune.
Recrute jeune. Et qu'il appelle au 32-16, ton bébé également.
Il faut quand même noter sur le match de ce soir que le but intervient sur une phase de supériorité numérique. Oui. Stelotto est à terre. Et donc Lille en profite et marque sur la même action. Mais il manque encore juste un petit truc, tu vois, pour être vraiment convaincu que Lille est sur la bonne lancée. C'est que devant, il faut qu'ils soient un petit peu plus réalistes. Parce que là, ils peuvent tuer le match.
Il y a quelque chose qui me chagrine un peu, et c'est assez paradoxal, et ça va à l'encontre un peu de ce que tu dis et des stats. C'est-à-dire que oui, on voit que le LOSC est plus solide défensivement, mais moi, honnêtement, les matchs que je vois, je trouve que ça s'effrite un peu.
Exactement.
Honnêtement, je trouve que Gabriel est beaucoup moins en forme
pour une défense qui s'effrite de saison. C'est aucun but sur les trois derniers matchs.
Je préfère Bradaric à Reinildo parce que j'adore sa sensibilité footballistique, notamment quand il est dans les 30 derniers mètres. Il a toujours la passe juste, le centre en retrait, le truc que Reinildo n'a pas.
Même José Fonté, on le sent moins en confiance.
Ouais, c'est pour ça, je te dis.
Sur ce thème-là, il faut ajouter aussi le milieu de terrain. Cheka est pas.
Non, Cheka, il a du mal.
Non, mais les gars, il y a de la marge.
On est en train de parler d'une équipe qui vient de gagner 3-1-0, les gars. À un moment donné, c'est quoi le. T'es entraîneur, c'est le meilleur résultat possible. Surtout en France. Parce que dans les autres pays, ils aiment beaucoup les buts. T'as une efficacité avec Osimhen. Voilà, t'as trouvé ton avant-centre. Pour moi, après avec le match d'aujourd'hui, tu retrouves Ikoné. C'est pas encore lui, Ikoné de la saison dernière, mais bon, il a repris un petit peu d'allant.
Et pas mal devant d'ailleurs.
Voilà. Et puis
même Bamba, s'il rate son penalty, finalement, il fait un bon match.
Il est encore un peu brouillon par rapport à l'année dernière.
Et puis après, comme t'as très bien dit, Benjamin, ça a été Renato Sanchez. Voilà. Aujourd'hui, ça a été la satisfaction, je pense, du.
Bien les gars, c'est l'homme du match. Ça veut dire que, imaginons, avec des si, en Coupe du Bois évidemment, mais imaginez, si Bamba, Ikoné retrouve, se rapproche de leur niveau de la saison dernière. Un Renato Sanchez qui retrouve un niveau qu'on a vu notamment chez lui il y a 3-4 saisons.
Il est en train de.
Et Osimhen qui enchaîne et qui finit à 25 buts. Est-ce que ça fait de Lille, c'est ma question, un favori pour le podium?
Il fait à la condition de retrouver une vraie solidité, une vraie sérénité derrière. Parce que je rejoins totalement Ludo. C'est pas parce que tu gagnes 3-1-0. Tu sens pas la puissance et la sérénité que dégageait le milieu de terrain. Parce que je mets pas juste la défense. Le milieu de terrain qui a apporté la sécurité et la défense centrale.
Mais c'est la seule condition. Pour la Ligue 1, ça va suffire. Parce qu'en Ligue des Champions, ils ont joué comme ça, ils ont pris des tôles parce que c'est un niveau qui est largement au-dessus. Et je pense que l'effet d'avoir perdu les matchs en Ligue des Champions,
la question de Nico, c'est pour le podium. Pour le podium, il y a quand même Marseille, Lyon, Saint-Etienne, Montpellier, Lille, Bordeaux. Ça fait beaucoup de déçus.
Tu peux en écarter ça de fin.
Oui,
mais j'ai beaucoup Bordeaux, mais Bordeaux n'est pas.
On les retire.
Bordeaux n'est pas concurrent pour le podium.
Montpellier avec. Non, mais ok, on retire Bordeaux. Saint-Etienne avec Puel. Montpellier avec le sérieux, la qualité qu'ils ont. Marseille qui avec Villas-Boas qui a bien les choses en main. Lyon. qui va toujours finir, qui est historiquement fait toujours des deuxièmes parties de saison canon. Ça va être une lutte acharnée pour deux places. Ils sont au moins 5 pour deux places.
Les gars, elle est passionnante, la Ligue 1.
On n'a jamais dit le contraire.
On va se régaler.
Vous savez, les gars, il n'y a pas de secret. Si Lille, à un moment donné, a fait un parcours excellent à domicile et très mauvais à l'extérieur, c'est qu'il y a à un moment donné des manques et des faiblesses quelque part. Je te dis, soit à un moment donné, ils ont été plus faibles devant, par moment, où Bamba, Ikoné, on s'est beaucoup appuyé sur Osimhen. Et du coup, au début, derrière, je trouvais que c'était vraiment, ça dégageait quelque chose, il y avait une vraie force. Là, je trouve que le rapport de force change, bascule un peu. C'est-à-dire, je sens un peu plus, derrière, je les sens un peu plus bousculés qu'avant. Et devant, je les sens retrouver maintenant.
Tu vois, l'équilibre en train de changer, quoi.
Il faudrait que
la balance soit
équilibrée pour pouvoir justement assurer une nouvelle fois la Ligue des Champions, parce que c'est important. Et il va falloir
sur le match d'aujourd'hui, Ludo, sur le match d'aujourd'hui, tu sens Lille en danger? Franchement.
Honnêtement, ça se ressent pas dans les stats, encore une fois. Mais honnêtement.
T'as eu des occasions pour Brest?
1-0.
Occasion. Je parle pas de mise en danger.
Il y en a une en mi-temps.
Il n'y a pas eu de tir cadré, mais Brest est trop souvent venu dans la surface nordiste.
Mais c'était pas méchant. Il y avait ça moqué. C'était pas incisif.
Quand tu vois une telle emprise sur le jeu. Moi, je suis beaucoup les matchs de Lille.
Oui, forcément.
j'ai trouvé cette défense plus rayonnante. Voilà, j'ai trouvé qu'elle avait plus de.
Après, de
la. Merci, non, merci Benjamin.
Salut Benjamin. La formule.
Merci à vous,
attends, j'accueille Yaya également au 32-16, supporter lillois. Salut Yaya.
Salut Yaya.
Oui,
Yaya.
Bonsoir,
bienvenue dans l'after. J'aime ton enthousiasme. T'as Jonathan et Yaya ensuite.
La formule, de toute manière, au milieu de terrain, qui maintenant, il n'y a plus de doute, hein, c'est
Soumaré
André.
Bien sûr.
Et quand, moi, je trouve qu'ils sont beaucoup plus solides quand il y a ces deux-là et que ça se ressent sur la performance de la charnière centrale.
Yaya, est-ce que tu ferais de Lille un favori pour le podium?
Moi, je suis supporter de Lille, mais bon, je vais essayer d'être, on va dire, objectif. Moi, je les sens quand même favoris, ouais, parce que ben, la Ligue 1, il y a deux championnats, il y a Paris et les autres, et ben, les autres, ben, ils sont, il y a plusieurs équipes sur la même ligne parce que le niveau il est faible. Tu gagnes trois matchs d'affilée, tu peux jouer le podium. Tu perds trois matchs d'affilée, tu joues le ventre mou. Donc là, moi, il y a aucune équipe qui sorte, qui sort du lot. Même Marseille ne sort pas du lot. Hein, ils m'ont rien montré non plus. Hein. Ils sont là parce que ben, les autres n'ont pas avancé.
Parce qu'il y a 5 victoires d'affilée.
Ouais, mais Yaya, je suis d'accord.
Exactement.
Avec toi. Après,
c'est beaucoup 5-1 quand même. Hein.
Vas-y, Habib.
À effectif égal, à talent égal, pour moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je place Lille dans les trois premiers.
Puis un coach, t'as un Galtier qui rayonne depuis deux saisons.
Il y a une
vraie plus-value pour Lille.
Il y a une donnée importante, c'est l'intégration de Renato Sanchez côté droit.
Ça c'est
pas négligeable. Mmh. Et pour étayer mon propos sur le fait que je sens cette D1, regardez le match de Dijon. Le match de Dijon à domicile, Lille
ne doit pas forcément
gagner ce match-là. Ils ont souffert. Donc, c'est pour ça que je te dis, là, ils sont au bon endroit au bon moment. Il reste quand même deux matchs très importants. Montpellier, il me semble, et Monaco. Il va falloir très bien... Si le LOSC se positionne là, dans les 4-5, avant la trêve... Avec le repos qui va être la Ligue des Champions qui est finie, voilà, ils vont retrouver de l'énergie, ils seront un concurrent sérieux, sérieux au podium.
Je suis tout à fait d'accord. Ouais. Si je peux ajouter quelque chose,
vas-y.
Moi, au niveau de l'analyse que je fais de Lille cette saison, c'est que on a une équipe qui est trop jeune pour la Ligue des Champions, c'est trop haut pour eux. Curieusement, au moment où ils ont senti que c'était fini, qu'ils pouvaient même plus accrocher la troisième place, qu'il y a eu une, quand ils se sont sentis résignés, et ben là, ça allait mieux en championnat. Ben, on peut regarder, hein, on peut voir les matchs, hein. Au moment où ils sont mieux dans le jeu, c'est au moment où ils sont résignés en Coupe d'Europe. Ils savent que c'est fini, donc ils tournent la page. Je pense que Galtier leur a fait un lavage de cerveau à ce niveau-là. Il a très bien fait d'ailleurs. Et c'est pour ça que je retrouve de l'allant au niveau du jeu lillois, parce que leur niveau il est là, parce que le niveau de Ligue 1 il est assez faible pour qu'ils puissent se retrouver dans les trois premiers.
C'est vrai, t'as raison.
C'est complètement normal, sachant que la Ligue des Champions est une compétition qui va puiser. Elle est énergivore, cette compétition. Ça veut dire que physiquement et mentalement, tu laisses beaucoup d'énergie. T'as des joueurs qui sont, tu joues Chelsea, tu joues Valence, tu joues l'Ajax. Ils ont fait toute la saison dernière vraiment pour ces matchs-là, les joueurs. Donc, ils étaient vraiment à 100%, même s'ils n'avaient pas le niveau comme...
Oui, mais ça t'a fait progresser, je pense. Et tu vas le ressentir sur les
appartitions. Je dirais pas le niveau.
C'est l'expérience, bien sûr, complètement. C'est pas une question de niveau parce que.
Ouais, quand même, les gars.
C'est
pas au niveau de l'Ajax aujourd'hui. C'est pas que l'expérience.
Ils ont bousculé. Moi, honnêtement, le premier match à l'Ajax. C'est peut-être d'ailleurs leur meilleur match
en Ligue des Champions.
Alors après, bien sûr, la Ligue des Champions, c'est les petits détails. Tu tues pas le match ou t'égalises pas au bon moment, tu fais pénaliser. Valence à domicile, t'as une balle de 2-0. T'as la balle à 2 mètres du gardien de 2-0, tu marques pas, pim, punition, t'en prends 4.
C'est
comme ça, c'est la Ligue des Champions, c'est le très haut niveau. Cette équipe, elle est en apprentissage. Moi, ce qui me rassure, c'est que je vois des joueurs revenir à un niveau intéressant. Iconé notamment, et Renato Sanchez. Je l'ai vu aujourd'hui, je sens que ce garçon a quand même une prestance, un poids. Je l'ai vu sermonner Osimhène parce qu'il ne faisait pas les bons appels sur les 3-4 galettes qu'il lui a mis.
Un genre de caractère, hein.
J'ai vu Osimhène écouter.
C'est exactement là où
tu vois, ça fait du bien d'avoir un garçon de plus, en plus de José Fonte et de Benjamin André.
C'est vraiment là où on voit qu'il se sent mieux, Renato Sanchez. Mmh.
Il est impliqué, hein. Voilà. Ouais. Même quand il va dans la tribune, il est remplacé, il parle à tout le monde, il monte le terrain et il débriefe le match déjà. Le garçon est impliqué. Peut-être une bonne trouvaille pour Lille. Merci Yaya d'avoir appelé au 32-16.
Yaya.
Merci. Bonne soirée.
Excellente soirée à toi. Tu reviens quand tu veux dans l'after, bien sûr. Tiens, on le dit sur l'application d'Air Studio, mais Habib, c'est le Habib de la série avec La Fontaine, avec Ben Arfa, Ricardo Fati et Diaby. Mais oui, vous vous rappelez, c'est l'homme du 4-4, c'est ça?
Ne donnez pas des cartouches,
les mecs. S'il vous plaît, mes auditeurs, on commence pas.
La génération 87 avec Ben Arfa.
86,
pardon.
Parce qu'après, ils sont prêts, là. Ils sont prêts.
Les nouvelles de Ben Arfa ou pas?
À thème, non, pas spécialement. Par contre, tous les autres. Tous les autres, on a une conversation, on est tous sur la conversation, donc je pense qu'ils
sont prêts. Vous avez un WhatsApp avec La Fontaine?
À 22-23. Et donc ouais, on a des
Ben Arfa, il a pas été pris dans les 23, quoi.
Ouais, ça change pas d'habitude.
Ouais, c'est pas beau.
Il était plus jeune.
Parce qu'en plus c'est mon pote et je le kiffe. Donc voilà, mais après c'est vrai que non, en fait on n'a pas réussi à le retrouver. Puis je voudrais lui passer un coucou parce qu'il a perdu son papa il y a quelques temps.
Exactement.
Donc voilà, toutes mes condoléances à la famille Ben Arfa.
Thème Ben Arfa, hein, qui s'entraîne encore tout seul, hein. Préparation individualisée dans l'espoir de retrouver un club. L'after revient. Bien sûr, on aura les trois drôles de dames avec nous. Simone Rovera, Paulo Breitner et Julien Laurence. Toujours avec Jonathan McCarthy, Ludovic Obraniak et Habib Belaïd. À tout de suite.
RMC. L'Afterfoot. Nicolas Germain.
Avec Ludovic Obraniak, avec Habib Belaïd et avec Jonathan McCarthy, bien sûr. C'est la dernière ligne droite
et
de l'After.
Non, déplace à Jonathan McCarthy.
Quoi?
Le petit Ruiz, il va se faire.
Oui, alors effectivement, on est très embêtés pour demain soir, chers Aftoriens. Parce que pendant l'After, il y aura la revanche. En Arabie Saoudite, championnat du monde poids lourd, Andy Ruiz Junior contre Anthony Joshua vers 22h45. Alors, on vous prévient tout de suite.
Mais c'est ça,
on fera parfois des petits apartés, boxe parce que c'est un combat énorme.
Des grands
que tout le monde. Non, ça reste l'after. Non, c'est pas vrai. Ça reste l'after, même si c'est un combat.
L'ensemble de la carte, elle est pas mal. Hein. Il y a Dillian White aussi qui combat en main event.
Messieurs, rapidement quelques infos avant d'accueillir Simone Rovera. Cavani, Marquinhos, forfait pour le déplacement à Montpellier du PSG. Cavani Ménager a pris une petite alerte mollet à la fin de l'entraînement. Quelle saison pour Cavani.
Ouais, c'est ça.
Kasper Dolberg va avoir un ami danois à Nice. Riza Dormissi, 25 ans, latéral gauche à Lazio,
bon.
Qui a été prêté à Nice. Hein, il n'a pas joué une minute à la Lazio. Hein. Il sera à Nice en janvier.
Et on n'avait pas ciblé.
Très bon.
Enfin, bon, faut aller pas.
Justement, Simone Rovera est avec nous. Ciao, Simone.
Qui avait besoin d'un arrière gauche, mais bon.
Ciao, Simone.
Ah, Simone.
Bon, ça marche pas, Simone. Ben, on va. Voilà. On a décalage de 20 secondes, je crois. Si, très bien. Simone, tiens, justement, on commence par ça, là, la petite recrue à Nice, là. Riza Dormissi, le Danois. T'as un truc à nous dire sur lui ou pas? Tu l'as vu jouer?
Bah, écoute, c'est pas un joueur qui a fait un signe important dans ma mémoire. Je te dis la vérité. La Lazio, elle est prête et on est juste au début de décembre. Fait déjà savoir qu'elle va partir. C'est qu'ils n'ont pas beaucoup misé sur lui. Non,
il faut demander à Fred surtout. Il était bon au Betis.
Ouais, il était prêt. Il est arrivé un an et demi à la dessus. Il est arrivé du Real Betis Séville. Vas-y.
Ouais, c'est. Écoute, il doit faire rien. C'est vraiment un joueur qui. Il y a plusieurs joueurs à la dessus qui ont mis du temps pour s'imposer. Lui, il a mis du temps pour ne pas s'imposer. Donc, voilà. C'est bonne chance.
Simone, ça a accouché une souris. Inter Milan, AS Roma, le leader de la Serie A, accueillait la Roma 5e, 0-0, score final. Bon, est-ce que c'était nul pour autant?
Bah écoute, c'était déjà un match entre deux équipes énormément diminuées. La Roma s'est présentée avec deux blessures de la dernière minute, parce que les gardiens Lopez a eu un petit souci musculaire, et Dzeko, qui a eu beaucoup de fièvre dans les derniers jours, est resté 60 minutes sur le banc des touches. L'Inter manque aussi de ces deux meilleurs milieux, au moins les deux créateurs, Sensi et Barella, qui vont être absents encore longtemps. Malheureusement, c'était un 0-0 où tu avais vraiment l'impression qu'il y avait des bonnes phases de possession aussi, des bonnes choses. Mais si le match durait 40 jours, on aurait eu un 0-0 quand même. Donc, c'était aussi un match très, très physique, très engagé. Il y a eu des beaux duels. Smalling, Lukaku, ça a été vraiment un plaisir à voir l'engagement qu'il mettait sur chaque ballon, mais sur un match de l'Inter qui devait garder la tête du classement, c'est vrai que demain la Juve va jouer face à la Lazio, c'est pas simple. Je m'attendais un peu plus, peut-être dans la tête de certains joueurs, il y avait les chocs face au Barça qui va arriver. Il y a aussi beaucoup de fatigue, l'Inter joue toujours avec plus ou moins les mêmes joueurs, c'est pour ça que Conte demande des grosses interventions au mercato de janvier.
Mais si c'était un examen de lenteur pour voir si elle pouvait faire un pas en plus vers ses rêves de titre ou de garder la tête du classement le plus long possible, ce soir, c'était un petit pas en arrière. Dans les jeux, c'était pas mal, mais j'ai trouvé un Lautaro très fébrile. Et il a raté beaucoup d'occasions devant le but. Il n'était pas bon au moment devant le but. Il a été bien muselé par Mancini, qui a fait lui aussi, autre défenseur central de la Roma, un gros match. Mais il faudrait s'attendre un peu plus de cette
affaire. Ok, Simone, bon, la liaison n'est pas excellente au téléphone avec toi, donc on va te libérer. À très vite, Simone.
Salut, Simone. Juste sur la Roma, il faut ajouter que Vertu, quand même, il s'est imposé. Il est très bon.
Il est bien.
Et c'est un des milieux en vue.
L'équipe de France, peut-être un jour, pour
Jordan Vertu. Bon,
l'ancien milieu de terrain du FC Nantes. Paulo Breitner, Julien Laurens, bonsoir simultané.
Bonsoir Nico, bonsoir tout le monde.
Un beau week-end chez vous également. Tiens, on va commencer par l'Allemagne parce qu'on a un choc demain 15h30 au Bundesliga. Borussia Mönchengladbach face au Bayern Munich. Le leader surprise de Marcus Thuram d'ailleurs face au Bayern d'Hansi Flick. Bon, c'est attendu. On va savoir un peu ce que vaut encore plus le Borussia demain, Polo.
Bah, c'est un petit peu ça. Donc, si tu veux, toute cette semaine, on a surtout le droit à une séquence nostalgie parce que cela ne nous rajeunit pas les années 70, évidemment. D'ailleurs, le mot le plus employé dans la presse allemande aujourd'hui et toute cette semaine, ce fut le mot classiqueur, le mot classique. Donc, on a tendance un peu trop habituellement depuis 10-15 ans à affubler systématiquement.
On dit classiqueur en Allemagne.
Ouais, le classiqueur, et on le donne un peu trop facilement depuis une quinzaine d'années à l'autre Borussia, c'est-à-dire Dortmund contre le Bayern Munich. Mais les vrais connaisseurs savent très bien que le duel qui a le plus séparé l'Allemagne en deux, c'est évidemment le Borussia Mönchengladbach contre le Bayern Munich. Donc évidemment, tu as tout à fait raison, Nico. C'est un vrai revival qu'on va revivre demain à 15h30. Très très important pour le Borussia Mönchengladbach qui est leader, rappelons-le, avec notamment 4 points d'avance sur le Bayern Munich, et surtout qui a l'occasion de passer à 7 points devant le Bayern. Ils n'ont pas énormément de résultats contre les grosses équipes du championnat allemand, et y compris en Coupe d'Europe, parce que même s'ils sont en tête de leur groupe d'Europa League, ils sont pas du tout qualifiés. Ils ont même eu de la chance sur l'ensemble de leurs matchs, donc on va voir un petit peu ce que ça va donner. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu vas avoir un match de possession pour le Bayern contre un match, j'ai envie de dire, Jürgen Klopp, c'est-à-dire le gegenpressing, le contre-pressing va être très très important du côté du Borussia Mönchengladbach, et évidemment dans un stade où il y aura plus 50 000 personnes.
T'as déjà fait le jeu du gegenpressing à côté de Jordan Mann?
Gegenpressing.
Le contre-pressing.
Le contre-pressing, la perte du ballon notamment.
Celui qui, dès que tu perds le ballon, le premier, enfin celui qui est le plus près du ballon, va presser.
Voilà, c'est un gros match. Hein. Marcus Thuram, 5 buts, 6 passes cette saison, Polo.
Alors, il est l'une des révélations de la saison, même si moi je suis assez, encore une fois, un petit peu sceptique sur différentes choses que je peux voir sur le terrain. Ce qui est plus intéressant d'ailleurs,
techniquement,
c'est peut-être
tu parles de quoi toi?
Écoute, il a des statistiques assez impressionnantes. Par contre, moi, je trouve qu'il y a un déficit technique assez important.
Oui, mais ça,
important.
On le savait en France aussi.
Oui, mais le problème, c'est que si tu veux, en Bundesliga, ça se voit assez rapidement, quoi. Donc, même si, encore une fois, sur le dernier mois, par exemple, il a fait d'énormes efforts, ce qui est sûr, c'est que c'est un joueur d'équipe. Ça, c'est important dans le collectif du Borussia Mönchengladbach. Mais ne pas oublier aussi qu'il y a un monstre en ce moment qui est en train d'exploser au Borussia chez les Fohlen, donc chez les Poulains. C'est l'international suisse Denis Zakaria, le numéro 6, qui est monstrueux. Il y a Patrick Herrmann, l'ancien international allemand qui est en train de monter, qui revient d'ailleurs de plusieurs saisons assez moyennes. Et donc tout ça fait que c'est assez intéressant. Je ne suis même pas sûr que demain Plea soit titulaire. C'est d'ailleurs la grosse question en Allemagne en ce moment. C'est savoir si le Borussia Mönchengladbach demain va avoir un jeu plutôt défensif. Donc par exemple Christoph Kramer, le champion du monde de 2014, va être titulaire. Ou si vraiment on va y aller à fond pour essayer de battre ce Bayern Munich. Et puis je voudrais, puisque j'y pense, souhaiter à Habib une excellente arrivée. Chez RMC, parce que n'oublions pas qu'il est passé par Francfort. Il est passé par Francfort à l'Eintracht. C'est donc un Adler, c'est un aigle. C'est important aussi.
On a deux Allemands dans l'after.
Voilà, quand même, enfin le 21e siècle en France se réveille. C'est assez intéressant.
Majorité d'Allemands, là, on est trois Allemands autour d'eux. Mais heureusement, merci Polo. Excellent soir à toi. On en prend demain soir dans l'after, bien sûr. On a également un Anglais. Julien Laurens, l'amitié anglo-germanique. L'after réunie. Salut Julien. City contre United demain, 18h30. Bon, je rappelle, c'est pas un match pour le titre. Il y a 11 points d'écart entre les deux en tout cas. United, je regardais tout à l'heure avec Habib, est à 22 points. Ça paraît fou après 15 journées de Liverpool. Mais ça n'a plus aucun sens d'en parler en fait. 22 points.
Mais
en jeu demain.
Mais ça. mais ça reste quand même le 179e derby de Manchester, qui reste, quoi qu'il arrive, un des plus gros matchs ici en Angleterre de la saison. Les matchs que tu sais, tu regardes lors de la publication du calendrier au début de l'été, et c'est vrai que ça reste toujours particulier. C'est le dernier de la décennie en plus, puisque il y en aura plus dans cette décennie. Une décennie qui a vu Manchester City passer devant Manchester United comme l'équipe principale de Manchester, comme l'une des meilleures d'Angleterre aussi. Hein, depuis la retraite de Sir Alex Ferguson à l'été 2013, c'est plus du tout le même United, alors qu'au contraire City a continué à monter en puissance avec l'argent bien sûr d'Abu Dhabi, mais aussi avec l'arrivée de Pep Guardiola et puis d'autres joueurs comme Kevin De Bruyne par exemple. Donc c'est toujours un match très intéressant. C'est un match qui tourne souvent à l'avantage de City ces dernières saisons, puisque United l'a remporté qu'une seule fois lors des 6 dernières rencontres de Premier League contre Manchester City. Ce jour-là, Paul Pogba avait marqué 2 buts. Paul Pogba ne sera pas là demain. Anthony Martial devrait lui être de retour, mais toujours pas de Paul Pogba qui...
Il sera là quand, Pogba, la prochaine journée, la suivante?
Non, dans 15 jours, je pense, d'après ce qu'on me dit dans 15 jours. Mais on est plus habitué cette saison à ne pas le voir qu'à le voir sur le terrain d'ailleurs. Donc ça ne fera pas de grande différence pour Manchester United qu'ils ne soient pas là demain, puisqu'ils ont tellement l'habitude. Mais c'est vrai qu'ils manquent énormément, notamment dans la créativité.
Mais merci Julien.
Merci Julien.
C'est complet.
Merci. Et puis bienvenue. Bienvenue à Habib aussi. Il y a encore un peu de travail, Habib. Hein, mais bon, on va y arriver. On va y arriver.
Ouais, t'inquiète pas.
Quoi, c'est des potes ou pas? Tu connais Julien Laurence?
Non, mais bon.
Ah, il y va, le Julien.
Il y va, il m'attaque, c'est
non,
ça.
Non, mais j'ai beaucoup aimé, mais voilà, c'est la première. Il faut.
Jules, regarde le derby avec beaucoup de légèreté. On est champion de façon, tu le sais. Donc,
c'est vrai.
Pour regarder avec beaucoup de plaisir.
Vous êtes champion.
Exactement.
Ah, champion, les Reds, on est champion.
Tu dis après 30 ans, Ludo, quand même.
Alors lui, dit on, le gars.
Bah attends. T'étais pas né encore.
T'as pas le droit de dire on.
T'étais pas né, Ludo.
Il avait 4 ans.
Tu rigoles ou quoi?
4 ans, ça, on en parle à la fin de la saison, on verra. Si, c'est parti pour.
Et il prend pas beaucoup de risques non plus.
Oui, non, pas de risques.
Il prend pas beaucoup de risques non plus.
C'est dire on quand ton équipe a 11 points d'avance sur son concurrent direct.
Tu rigoles ou quoi? Ça fait tellement longtemps qu'on attend.
Oui, qu'on attend
dans la glissade de Steven.
Ses parents étaient mineurs à Liverpool, tu sais.
C'est fou.
Bon. Il a manifesté contre Thatcher, Ludo, à Liverpool.
Bah oui,
dans les années 80.
En Pologne.
Et oui, en plus, oui, t'as raison. Et sur la filière.
Je crois qu'on était où?
Mais t'as raison. Alors. Merci Habib.
Merci Habib.
Merci à vous.
T'as amusé?
Ouais, c'était cool.
Imprévu dans l'after. Bon, ouais, t'as déjà découvert l'affreux Jonathan Bacardi.
Ouais,
on s'est quand même marré.
C'est vrai que on donne cool. Rendez-vous.
C'est oui, tiens,
tout de suite, cool. RMC Fighter Club, un gros preview de Joshua Ruiz. Et surtout, un gros bisou à mon pote Salazim Parnas qui combat demain pour la ceinture des poids plumes au KSW en Pologne.
C'est vrai que ça colle, hein, l'Afro Jojo.
L'Afro Jojo. On va l'appeler comme ça maintenant.
Bah ouais.
L'Afro Jojo de la Fondue
Élégance.
L'Afro Jojo de l'Élégance revient demain soir pour débriefer la Ligue 1 à partir de 22h. Excellente soirée à tous.
Et Joshua Ruiz.
RMC jusqu'à minuit.
L'After Foot.